Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue effectivement dans RTL Midi. Deux heures d'infos, de débat mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une ce midi, le début du procès du siècle, celui des attentats du 13 novembre. Des tirs près d'une école, ça se passe à Salon-de-Provence. Déjà plus de 14 000 plaintes pour le Covid contre des ministres. Et puis la SNCF qui perd la ligne Nice-Marseille. Les usagers, eux, devraient toutefois s'y retrouver.
Échange, décryptage et débat juste après votre journal vers 12h40. Un 13 novembre serait-il à nouveau possible aujourd'hui? C'est la question qu'on posera précisément aux auditeurs, alors que le procès s'ouvre à l'instant. Et à 12h50, parole à l'une des victimes qui a décidé d'aller témoigner à la barre, Bruno Poncet. Il était au Bataclan ce soir-là, il sera notre invité.
C'est notre question du jour sur RTL.fr. Redoutez-vous des attentats de grande ampleur en France? Vous répondez oui, massivement à 78%. La météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Et attention, 32 départements en vigilance orange.
Oui, orange aux orages et entre l'Occitanie et l'Île-de-France, c'est l'Aude pour orages et pluies. Alors la dégradation orageuse concerne pour le moment la façade atlantique. Elle se décale lentement vers l'est et va concerner les régions entre l'Occitanie et l'Île-de-France. En soirée, d'ici là, vous aurez le temps de profiter du soleil à l'est. Les températures, du coup, elles sont en baisse à l'ouest, mais ça reste chaud à l'est. 31 degrés encore attendus cet après-midi à Paris comme à Lyon.
Merci beaucoup Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et sans plus attendre, direction donc le palais de justice de Paris. Le procès des attentats du 13 novembre va débuter dans les toutes prochaines minutes. Anne Le Hennaff, bonjour. Vous êtes bonjour. Sur place pour RTL. Les accusés sont en train d'arriver dans la salle d'audience.
Oui, ils sont entrés dans le box, un par un, menottés, escortés dans ce box en bois clair, dans cette salle d'audience construite spécialement pour eux, pour leur procès. Elle permettra aussi aux parties civiles, elles sont 1800, de suivre le plus près possible cette audience historique. Beaucoup appréhendent ce face-à-face avec les accusés. Ils l'attendent aussi, car ce procès va leur permettre d'être reconnus comme victimes, nous a confié tout à l'heure l'un de leurs avocats, maître Olivier Maurice, qui espère aussi peut-être une surprise au cours de ces 9 mois d'audience, qu'un accusé craque, flanche devant la souffrance des parties civiles, car jusqu'à maintenant, très peu ont parlé, ont expliqué comment cette cellule s'était montée et pourquoi ils avaient fait ces gestes et ces actes fous. Ils ont 9 mois pour peut-être expliquer ces actes. Le procès va commencer dans un instant à l'autre, et il va démarrer par l'appel des parties civiles et des témoins. Ça va durer au moins 2 jours.
Anne Le Hennaff, en direct du palais de justice de Paris.
Et je me demandais, Anne, si les caméras seraient autorisées à entrer dans la grande salle et si nous verrions le visage de Salah Abdeslam.
Alors, ce procès est enregistré et filmé pour l'histoire, mais ces images, on ne les verra que dans de très nombreuses années. Et le dispositif médiatique est extrêmement encadré pour qu'on ne puisse certainement pas filmer les accusés dans leur box. C'est tout à fait interdit par la loi.
Merci beaucoup Anne, vous suivrez avec nous ce procès tout au long de ces 9 mois d'audience et on y revient bien sûr dès 12h40. L'actualité c'est également ces deux nouvelles fusillades la nuit dernière à Marseille, l'une dans le centre-ville, l'autre dans les quartiers nord. A priori aucun lien entre les deux, 2 personnes ont été tuées et une autre, blessée. À 50 km de là, à Salon-de-Provence, ces tirs à l'arme automatique. Ça s'est passé tout près d'une école à l'heure de la sortie, c'était hier. Sous les yeux de parents, bien sûr, effrayés, Étienne Baudu.
Ah oui, étrangement, pour un mercredi matin, on croise très peu d'enfants et de mamans dans les rues ou les parcs de ce quartier populaire des Carnourgues. Il faut dire que la scène a de quoi faire froid dans le dos. Hier soir, juste après la sortie des classes, alors que les enfants sont encore devant l'école, des individus tirent en l'air à la Kalachnikov. Ils se trouvent à 50 mètres de l'école, sur la petite esplanade où se situe le point de vente de drogue du quartier. Des tirs d'intimidation, probablement dans le cadre d'une lutte de territoire. Patrick Volto est éducateur dans le quartier.
Ça résonne, c'est effrayant, on n'est pas habitué à ça. Les enfants sont retournés, certains dans l'école, des familles sont parties en courant et sont rentrées chez eux. Bon, je pense que le fait d'agir justement à cette heure-ci, c'est pour bien marquer les esprits et que tout le monde se sente plus ou moins concerné par ce qui se passe et créer ce sentiment d'insécurité dans le quartier.
Et c'est malheureusement réussi. Écoutez cette maman qui le confirme.
Quand on entend des tirs, ben on ne sait pas d'où ça provient, donc on ne sait pas par où partir en fait. Donc on se retrouve tous coincés. Mais c'est la peur, on n'est plus en sécurité dans le quartier.
Et le maire, lui, a décidé de détruire sans attendre ce matin la dalle de béton sur laquelle s'installaient les dealers.
Étienne Baudu en direct de Salon de Provence pour RTL. Le Covid à présent et les plaintes contre les ministres arrivent par milliers devant la Cour de justice de la République. Déjà 14 500, c'est ce qu'a dit ce matin sur RTL François Molins, le procureur général près de la Cour de cassation.
On était la semaine dernière, je crois, à 14 500. C'est des plaintes qui arrivent par caisse. C'est curieux parce que devant la Cour de justice, il n'y a pas de constitution de partie civile. Pourtant, ces plaintes arrivent. Moi, j'y vois la traduction de deux phénomènes. Le premier, je pense que tout le monde en est conscient, c'est ce phénomène de judiciarisation croissante de la société.
Les
et le second, c'est une explication plus terre-à-terre qui vient du développement d'Internet et des réseaux sociaux. C'est la mise en place par un avocat sur Internet d'un site qui comprend des plaintes en ligne qu'on peut télécharger, remplir et envoyer après avoir payé 2 euros à l'avocat concerné.
François Molins, invité ce matin sur RTL, d'Alba Ventura. Autre chiffre, il concerne cette fois le nombre de classes fermées pour Covid. Moins d'une semaine après la rentrée scolaire, elles sont 545, soit une classe sur 1000. C'est ce qu'indique Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui, comme le reste du gouvernement, est réuni en séminaire à l'Élysée. Bonjour Vincent Derosier.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL et chacun a été prié d'arriver avec trois réformes, trois mesures à mettre en place avant la fin du quinquennat. On sent bien que la campagne approche.
Oui, et en toute modestie, l'Élysée a appelé ce séminaire « Conquête et résultats ». Ce qui préoccupe Emmanuel Macron pour l'instant, ce sont les 100 jours qu'il a devant lui pour réformer. Tous les ministres sous pression ont donc un gros dossier sous le bras ce matin. Un ministre de Bercy me confie par exemple qu'il va mettre en avant la généralisation du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile dès le mois de janvier, parce que ça rend du pouvoir d'achat tout de suite aux Français. Du concret donc, qui a pu changer la vie des gens. Un homme sera quand même chargé de casser l'ambiance. C'est Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Il dira que le calendrier est surchargé et qu'il n'y a plus de place pour de nouvelles lois. Enfin, Emmanuel Macron va demander à ses ministres quels sont les risques qu'il faut anticiper avant l'élection. Et un ministre a déjà sa réponse. On ne gagne pas sur un bilan, mais sur une impression, confie-t-il. Et pour laisser une bonne impression, estime-t-il, il faut arrêter d'angoisser les gens avec la réforme des retraites.
Vincent Derosier, l'Élysée pour RTL, une campagne présidentielle dont Éric Zemmour pourrait être privé. Le polémiste, qui n'est pas encore officiellement candidat, encourt une peine d'inéligibilité. Il doit être jugé aujourd'hui pour des propos tenus sur les migrants mineurs. C'était l'an dernier sur CNews.
Et puis il n'est pas rancunier peut-être parce que Nicolas Sarkozy, lui, vote pour la primaire à droite.
Oui, c'est une info qu'RTL vous révélait ce matin. Le système, vous l'évoquiez, ne lui est pas vraiment réussi hein, il y a 5 ans. Eh bien cette fois, l'ancien président estime qu'aucun candidat ne se détache pour l'instant. C'est possible depuis 2019 et l'ouverture à la concurrence, c'est aujourd'hui une réalité. La région PACA abandonne une partie, en partie en tout cas la SNCF. Elle a choisi Transdev pour exploiter l'une de ses lignes phares, le TER entre Marseille et Nice. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Concrètement, ça va changer quoi pour les usagers?
Eh bien, plus de régularité, plus de confort et une meilleure qualité de service. L'expérience client devrait donc être améliorée. Visuellement, le logo SNCF à l'avant des trains disparaîtra au profit de celui de Transdev, mais le nom de la région sera toujours indiqué sur les rames. Le nouvel opérateur, il a prévu d'acquérir 16 nouveaux trains, plus modernes et neufs. Il y aura aussi plus de trajets. Actuellement, la SNCF, elle propose 7 allers-retours par jour entre Marseille et Nice via Toulon. Eh bien, Transdev en proposera 2 fois plus, soit 14 par jour. Une promesse qui devra être tenue pendant au moins 10 ans. C'est la durée du contrat de concession. Et le personnel de la SNCF sera transféré vers Transdev. Cela représente environ 200 personnes à date. Et c'est peut-être là que ça va coincer, car tous ne seront pas forcément d'accord. Et dans tous les cas, le nouvel opérateur commencera l'exploitation de cette ligne en juillet 2025.
Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Touche du service éco de RTL.
Mais est-ce que pour l'usager, ce sera moins cher?
Ah non, les prix normalement devraient être les mêmes a priori, c'est ce qu'a promis la région.
Ah oui, ça c'est...
À voir en 2025.
On aurait aimé effectivement que les prix soient inférieurs.
Mais il y a des investissements.
Oui. Bon, le foot, Pascal, vous avez été rassuré hier?
J'ai été rassuré et les coupeurs de tête, on les entend moins depuis ce matin.
Fin de la série de matchs nuls, en tout cas pour les Bleus. Victoire 2-0 hier soir face à la Finlande avec ce doublé signé Griezmann qui ce matin était déjà de retour à l'Atlético de Madrid.
Hola, Atléticos. Y estoy aquí.
Je suis de retour, a-t-il lancé dans cette vidéo postée par le club du côté d'Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, et le soulagement qui domine.
Du soulagement parce qu'on restait sur deux contre-performances sur ce rassemblement et on commençait à sentir un peu de crispation de notre côté. Donc voilà, c'était le moment de se faire violence et de réagir en équipe. On l'a très bien fait, également grâce au soutien des supporters qui ont été présents et on a vécu une belle soirée.
Hugo Lloris au micro de nos confrères d'M6. À l'issue de ces trois matchs de qualification pour la Coupe du Monde, la France conforte sa première place avec 12 points. Première place du groupe, la Finlande est deuxième avec 5 points, mais deux matchs en moins. Suite et fin de ces matchs qualificatifs, ce sera au mois de novembre. Et puis lui avait fait partie des Verts à la grande époque. On a appris aujourd'hui la disparition de Gérard Farizon, défenseur de la Saint-Etienne. Il avait fait toute sa carrière pro dans le club stéphanois. Gérard Farizon avait 77 ans.
Juste après le journal, nous allons entamer deux débats. Un 13 novembre serait-il à nouveau possible? Aujourd'hui, on sera avec Thomas Proutot dans une seconde. Et puis parole ensuite à une victime qui a décidé d'aller témoigner à la barre, Bruno Poncet. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. Médical. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Neuf mois pour connaître enfin la vérité, peut-être. Le procès des attentats du 13 novembre s'ouvre aujourd'hui à Paris.
Première audience aujourd'hui sur les attentats du 13 novembre 2015.
La France juge les terroristes qui ont tué 130 personnes à Saint-Denis et à Paris le 13 novembre 2015.
13 novembre 2015.
Alors que le procès est sur le point de s'ouvrir, RTL Midi a choisi de s'arrêter sur l'état de la menace terroriste en France 6 ans après. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service police-justice ici à RTL. Je vais vous poser cette question comme ça de but en blanc, de façon un peu brutale, mais est-ce qu'un 13 novembre serait à nouveau possible aujourd'hui en France?
Alors, il faut évidemment être extrêmement prudent quand on répond à cette question. Le risque zéro n'existe pas. Tous les acteurs de l'antiterrorisme le disent et le répètent. Mais les services de renseignement et au premier rang la DGSI s'accordent. L'État islamique est considérablement affaibli. Les principaux cadres impliqués dans les attentats de 2015 sont morts ou présumés morts. Et le groupe terroriste ne possède plus de territoire propre. La projection vers l'Europe d'un commando quasi kamikaze n'est donc plus considérée comme un risque immédiat, avec deux bémols. L'État islamique n'a pas renoncé à frapper. Ses combattants mènent chaque jour en Irak et en Syrie des dizaines d'attaques et sa propagande continue de viser la France. Ce qui inquiète le plus aujourd'hui, c'est le passage à l'acte d'individus isolés, sans lien direct avec l'État islamique, plus ou moins fragiles psychologiquement et susceptibles de mener des attaques qu'on appelle inspirées. C'est ce qui s'est passé à Rambouillet en avril dernier, lorsqu'un employé administratif du commissariat a été poignardé à mort par un chauffeur-livreur radicalisé et dépressif.
L'État islamique est affaibli, mais est-ce qu'il existe d'autres groupes?
Alors, l'autre groupe menaçant, c'est encore et toujours Al-Qaïda, fondé bien sûr par Ben Laden. Ses capacités d'action sont elles aussi réduites, mais ses filières sont très actives au Yémen et au Sahel. Al-Qaïda a posté mi-juillet une longue vidéo presque d'une heure presque et consacrée en grande partie à la France, à sa mécréance et à la nécessité de passer à l'attaque. Là encore, visiblement dans l'objectif d'inspirer des fanatiques isolés, de déclencher, si vous voulez, à peu de frais des attentats. Al-Qaïda conserve la volonté d'attaquer les pays occidentaux au cœur, mais elle doit compter, l'organisation terroriste, avec des pays, des États beaucoup mieux préparés, dont la France.
Alors justement, je voudrais qu'on écoute François Molins. Il était procureur de la République de Paris au moment de ces attaques et il était ce matin l'invité d'RTL. Il a reconnu des failles, mais note toutefois effectivement que des progrès ont été faits depuis.
Bien sûr, il y a eu des failles. Tout le monde le reconnaît, mais on voit aujourd'hui les choses avec une grille de lecture qu'on n'avait pas à l'époque. On sait après coup que la coopération à cette époque-là aurait pu mieux marcher. Mmh. Ça, c'est évident. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'était il y a 5 ans, qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis, en renforçant l'arsenal législatif. On a certainement perdu en naïveté, on a progressé en coordination des renseignements, on a beaucoup progressé sur la coopération internationale, sous l'égide d'Europol et d'Eurojust. On ne travaille pas de la même façon.
On ne travaille pas de la même façon, disait ce matin sur RTL François Molins. Est-ce que vous avez un exemple précis, Thomas Proutot?
Un exemple très simple. Lorsque Salah Abdeslam s'enfuit au lendemain du 13 novembre, il est contrôlé par des gendarmes français à la frontière belge, vous vous souvenez. Seulement, le fichier européen qu'ils ont à disposition, qu'on appelle le SIS, à l'époque n'intègre pas le fait qu'il est fiché pour terrorisme par les Belges. À l'époque, on ne mettait pas les informations dedans. Eh bien, donc, il le laisse passer et partir en Belgique. Il y aura ensuite les attentats.
Et ça n'existe plus aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, ça c'est impossible. Toutes ces informations sont partagées. Deuxième exemple, exemple, vous savez que certains des kamikazes du commando du 13 novembre, des Français, sont rentrés par la Grèce dans le chaos des migrants. Ils avaient été, leurs empreintes avaient été prises, avaient été photographiées. Eh bien, on n'a pas eu que certains d'entre eux étaient sous mandat de recherche. Ça serait rigoureusement impossible aujourd'hui.
Et puis, il y a des modes d'intervention même qui ont changé depuis le 13 novembre. Par exemple, ces deux commissaires qui étaient entrés dans le Bataclan et qui ont sauvé des vies, ils l'ont fait d'une manière illégale. Il fallait attendre l'arrivée de la BRI pour qu'ils puissent entrer. Eh bien, aujourd'hui, ce serait possible. Donc, le mode d'intervention a également évolué.
Exactement. Le schéma d'intervention des forces de l'ordre a été complètement changé. C'est-à-dire que comme on a compris que n'importe quel policier ou gendarme, attention, je parle des forces de l'ordre, hein, surtout pas des militaires, c'est pas leur rôle, pouvait se retrouver en première ligne, eh bien, la doctrine, c'est qu'effectivement, c'est à eux en premier, s'ils le peuvent, de neutraliser un commando ou un terroriste.
C'est ce qu'on appelle les primo-intervenants.
Et d'un mot, plus de coordination aussi entre les services de renseignement.
Oui, alors, parce qu'à l'époque, ils ne se parlaient pas toujours, ça avait déclenché une colère mémorable de Bernard Cazeneuve au ministère de l'Intérieur après les attentats de janvier 2015. Aujourd'hui, il y a une cellule spéciale dédiée et permanente au sein de la DGSI où tous les responsables des services de renseignement ont un représentant en permanence. Dès qu'il y a un risque, une menace, un doute, on échange, on ne se cache rien et on essaye de prévenir la menace qui, encore une fois, reste extrêmement forte avec un niveau de vigilance extrêmement élevé.
Merci beaucoup Thomas Proto pour ces
On marque une pause et Bruno Poncet est avec nous. Il était le soir du 13 novembre présent dans le Bataclan et il va témoigner dans une seconde.
RTL Midi avec Amandine Bégot et Pascal Pro.
12h49 sur RTL et alors que le procès des attentats du 13 novembre va s'ouvrir dans les toutes prochaines minutes, parole au parti civil. Bonjour Bruno Poncet.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en studio ce midi. Vous étiez au Bataclan ce soir-là. On a envie d'abord de vous demander comment est-ce que vous allez. C'est un jour forcément particulier pour vous, les victimes, l'ouverture de ce procès.
Moi, ça va, et c'est ce que je ressens depuis bientôt 6 ans. J'ai pas le droit de me plaindre. Moi, je suis vivant, j'en suis sorti debout de cette salle. Donc, c'est pas moi qui vais me plaindre, mais bon, oui, effectivement, aujourd'hui, c'est un retour en enfer, mais c'est comme ça, ça va durer 8 mois, et après, on espère avoir une vie un peu plus sereine.
Retour en enfer parce qu'on ressasse tout ça, et malgré tout, vous tenez à y aller.
Oui, parce qu'à un moment donné, il faut aussi entretenir le... Déjà, il faut qu'on ait certaines réponses. On ne les aura pas des terroristes, mais on les aura certainement de l'enquête et peut-être d'autres intervenants. Et puis aussi, il faut à un moment donné pouvoir... Moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi que j'ai rencontrées après qui étaient aussi là-bas, qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas y aller. Donc, je le fais aussi un peu pour eux. Donc, voilà. Et puis, c'est une façon aussi d'avancer, hein, parce que ça fait quand même 6 ans qu'on est là-dedans bientôt. Et donc, il faut vraiment, à un moment donné, trouver tous les moyens pour qu'on puisse, nous, après, reprendre une vie plus sereine après le procès, si tout se passe bien.
Comment s'est passée cette soirée pour vous?
C'est une soirée qui a très bien débuté. C'était très festif. Et moi, j'ai eu la chance qu'avec l'ami avec qui j'étais, qu'il a envie d'aller aux toilettes et qu'il trouve des toilettes à l'étage. Donc, quand après, il nous a fait, parce qu'on était avec son fils, on était tous les trois, et il nous a fait monter à l'étage. Et on s'est retrouvés face à la scène, mais dos au mur, dans un endroit qui était un petit peu dans un renfoncement. Il y avait 2 piliers de chaque côté, donc bien discret. Et donc, quand ça a commencé à tirer, mon ami a sauté sur son fils pour le protéger. Et moi, je suis resté debout parce que je cherchais une solution. J'avais vu par où on était rentré, mais je m'étais dit, il faut qu'on arrive à sortir de là le plus vite possible. Parce que voilà, comme il tirait et que ça s'arrêtait pas. Moi, je suis resté debout longtemps. Et au moment donné, il y a la porte qui est juste à côté de moi où par où on est arrivé s'est ouverte. Et une jeune femme est arrivée sur moi, tout affolée, marche à moitié dessus. Donc, la première réaction n'a pas été la plus courtoise. Et après, elle me dit, j'ai peur. Je lui dis, écoute, mets-toi là. Donc, elle s'est mise derrière moi. Et donc ensuite, mais peu de temps après qu'elle soit elle montée, la porte qui était un peu plus loin que moi, et elle par contre s'est ouverte. Et là j'ai vu quelqu'un rentrer très calme, très 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 paisible, en survêtement, tranquille, qui marchait vers le devant du balcon, quoi. Et je comprenais pas trop comment il était aussi calme, quoi, dans ce moment-là. Et à un moment donné, je vois qu'il lève son bras droit et j'ai vu le bout évidemment d'une arme au bout de sa main. Et donc à ce moment-là, moi je me suis baissé, je continue à regarder, mais je me suis baissé.
Et vous dites quoi à ce moment-là? Enfin, c'est fini ou...
Ah oui, à ce moment-là, je pense qu'on va mourir, hein, parce que en plus ils sont en train de tirer. Alors ils ont longtemps tiré en rafale, mais après ils tiraient coup par coup. Ils étaient à côté de nous, donc nous on entendait très bien. Et tout à l'heure, vous parliez il n'y a pas longtemps, à l'instant, là, du commissaire qui est rentré et qui n'avait pas le droit, mais on lui donne notre vie. Parce que quand il tire et que le terroriste qui est sur la scène se fait exploser, ça paralyse les deux autres qui sont à côté de nous, qui sont à quelques mètres de nous. Et à ce moment-là, mon ami et son fils arrivent à se faufiler avant, à partir des toilettes, et moi je reste seul avec Edith.
Et on a passé, cette jeune femme que vous
cette jeune femme, ouais. Et on a passé quasiment une heure et demie comme ça, à attendre. Et pendant longtemps, on a cru qu'ils viendraient nous tuer, parce qu'ils faisaient rangée par rangée. Enfin, ils essayaient de tuer tout le monde, quoi. C'était un peu leur objectif. Et puis, nous, on a attendu là pendant une heure et demie à attendre. Et c'est la BRI qui nous a sortis.
Et vous avez tout vu, tout.
Alors moi, j'ai beaucoup vu, oui. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de choses, parce que je suis resté très longtemps debout. Et après, on a beaucoup entendu, surtout. Et quand je dis que j'ai entendu, parce que je l'ai déjà dit ailleurs, mais quand je dis que j'ai entendu des gens mourir, c'est vrai, parce que nous, on était là, enfin, moi, j'étais dos à Edith pour essayer de la protéger un peu, et on entendait des gens râler, des gens gémir, quand les gens ont senti que les secours rentraient. Parce qu'à un moment donné, nous, on a senti, enfin, moi, ce que j'ai dit à Edith, j'ai senti qu'il y avait un peu d'air, donc, on a senti que les secours rentraient, on a entendu un peu ce bruit-là, et on entendait des gens qui commençaient à engueuler les policiers ou les pompiers en disant, dépêchez-vous, il est en train de mourir dans mes bras, quoi. Donc, ce qui fait que pendant une heure et demie, oui, on a entendu des gens mourir, et puis, et l'odeur aussi, parce que l'odeur était très forte, entre la poudre et le sang, c'est une odeur insupportable.
On a beaucoup parlé de la culpabilité de ceux qui restent vivants.
C'est vrai. Moi, je me sens. Alors, on appelle ça le syndrome du survivant, mais moi, je me sens coupable parce que quand on est descendu après et que malheureusement, pour sortir, il a fallu enjamber des gens qui étaient restés au sol. Moi, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des gamins de 18-20 ans, et vous vous dites pourquoi vous en êtes sortis. Et moi, en plus, j'en sors indemne, c'est-à-dire que j'ai pas de blessure. Si vous m'avez croisé dans la rue après, à part un peu de sang sur mes chaussures, j'avais rien, quoi. Donc, c'est comme si je sortais d'un. Et donc, c'est très compliqué. Et encore aujourd'hui, je me pose toujours cette question. Et c'est pour ça que, sans se mettre une pression, mais j'essaye d'être exemplaire dans ce que je dis, dans ce que je fais. Je me sens jamais légitime pour venir parler de ça, parce que je me dis, voilà. Mais en tout cas, je le fais aussi pour ceux qui en sont pas sortis, parce que peut-être qu'eux, ils voudraient qu'on. Enfin, déjà, ça permet de perpétuer leur mémoire, et puis aussi peut-être ils ont besoin, peut-être d'autres qui ont besoin qui n'arrivent pas à parler. Moi, comme j'arrive à parler, je peine un peu parce que le sujet est compliqué, mais voilà, ouais, mais c'est vrai que le syndrome de culpabilité, c'est quelque chose qui vous bouffe la vie. Hein.
Ça vous bouffe la vie. Vous êtes engagé dans le syndicalisme depuis, après tout ça, c'est une façon de rendre ce qu'on vous a laissé.
Ouais, j'étais déjà délégué syndical avant, mais comme je faisais ça en plus de mon travail, et après, c'est vrai qu'effectivement, j'avais besoin de me rendre utile. Et pour se rendre utile, bah, moi, dans ce que je faisais tous les jours, c'était le syndicalisme. Et donc, je m'y suis mis à corps perdu. Je m'y suis investi dans tout ce que je peux faire. Donc, c'est compliqué parce que c'est tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Hein, mais effectivement, j'ai l'impression de me sentir utile. Et à une époque de ma vie syndicale, je me suis retrouvé aussi sur des plateaux télé à défendre mes idées. J'ai croisé M. Pro à cette époque-là. Mais voilà, et je me sentais utile à ce moment-là. Et je me dis, au moins, ça sert à quelque chose que je sois vivant. Quoi. C'était vraiment ce besoin-là.
Et vous parlez, mais vous allez écrire aussi.
Ouais, je suis en train d'écrire un livre là, avec un ami qui devrait sortir en début d'année. C'est ce besoin d'exorciser, ce besoin de raconter l'événement lui-même. Mais bon, ce besoin après de raconter la suite. Et puis une fois que le procès sera fini et que le livre sera sorti, ben on pourra mettre ça dans la bibliothèque et puis je passerai à autre chose. J'essaierai de passer à autre chose. Ça sera toujours en moi, mais en tout cas, j'en parlerai plus. C'est-à-dire, je ne raconterai plus cette soirée. Je vais la raconter le 6 octobre dans mon tribunal, mais c'est un enfer pour moi.
Justement, le tribunal, vous avez hésité, je crois, à y aller. Qu'est-ce qui vous inquiète? Croiser le regard des accusés, croiser Salah Abdeslam?
Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai beaucoup de peurs qui sont arrivées que j'avais pas avant, mais en tout cas, j'ai pas du tout peur de les croiser. Non, c'est surtout d'y retourner. C'est-à-dire, ce procès, s'il dure 8 mois, on retourne dans l'enfer, comme je disais tout à l'heure. C'est y retourner. C'est-à-dire que moi, ça fait quand même bientôt 6 ans que j'essaie de sortir du Bataclan. Or, aujourd'hui, on m'y renvoie, et on m'y renvoie pour 8 mois. Les médias vont parler de ça, donc c'est impossible de s'isoler de ça. Moi, si j'avais pu me vivre dans une grotte depuis 6 ans, je l'aurais fait. Mais là, voilà, donc c'est pour ça. Mais après, le plus dur dans le témoignage, c'est pas de les croiser eux. Le plus dur, c'est pas se tromper. Le plus dur, c'est de dire les choses, de pas trahir aussi ce qui s'est passé.
Et on vous avait découvert, Bruno Poncet, au moment de la grève des trains, et il y avait eu un échange, je me souviens, sur LCI. Il y avait un intervenant qui disait que la SNCF prenait en otage parfois les usagers. Et vous aviez répondu, vous avez dit « Otage, moi je l'ai été au Bataclan ».
Ouais, mais parce que je pense après, que ce soit de mon côté à moi ou de côté de tout le monde, il faut faire attention avec les mots qu'on emploie. Et c'est pareil pour beaucoup de choses dans la vie, on voit des symboles en ce moment qui rêvent dans la rue, on compare un passe sanitaire avec une étoile jaune. Moi, je comprends. Je combats aussi le pass sanitaire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça, effectivement, le mot terrorisme, c'est pas, on ne peut pas coller à quelqu'un qui défend son travail de terroriste, c'est pas possible.
Merci Bruno Poncet, j'imagine que les auditeurs vont réagir à votre témoignage. J'allais vous dire, restez avec nous pendant un quart d'heure avec les auditeurs. Je sais pas
si vous voulez,
quel est votre emploi du temps, mais je me disais que les auditeurs aimeraient peut-être aussi vous interroger et pourquoi pas dialoguer avec vous.
Si vous voulez.
Donc je me permets de lancer cette invitation en direct. Il est 12h58 et on va marquer une pause. Le rappel des titres et à tout de suite.
RTL Midi. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.